Alors on va prendre un Corinthien encore et continuer notre passage. Nous sommes au chapitre 7. Nous avons fait la première partie. On va lire donc la deuxième partie, 1 Corinthiens 7. Et on va lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, on a vu la dernière fois que le mariage peut être une solution pour éviter la débauche. Et ce qui se dégageait donc du début du chapitre 7, c'était l'exhortation de Paul à ne pas se marier si nous n'y étions pas. Si par contre... Il y a mariage, eh bien de ne pas envisager de divorcer, mais plutôt essayer de bien remplir ses devoirs dans son couple. Et de même, il y avait un encouragement aux veuves à rester eh bien plutôt célibataires, comme on revoit ici à la fin de ce chapitre 7. Et en cas de séparation, là encore, la Paul exhorte à rester seul ou bien à se réconcilier avec son conjoint. Et finalement, il dit que si l'on est marié avec un non-croyant, et que l'incroyant veut divorcer, alors là, la chose est différente. Sais-tu si tu sauveras ta femme? Sais-tu si tu sauveras ton mari? Et donc, accepter aussi eh bien, qu'il puisse partir. Et on arrive maintenant à notre texte de ce matin, où Paul, au départ, ici, commence par enchaîner avec d'autres idées, la circoncision, l'incirconcision, l'esclavage, la liberté. Et puis ensuite, au verset 25, il reprend nettement... le sujet qu'il avait commencé à aborder, c'est-à-dire le célibat. Et c'est curieux que Paul se mette d'un seul coup à parler de la circoncision, l'esclavage, etc. Il est peu probable que d'un seul coup, Paul fasse une digression comme ça et qu'il parte sur un autre sujet. Il est plutôt en train d'essayer de donner des illustrations ici, donc qui nous permet de comprendre ce qu'il encourage à faire. Et il va répéter notamment une phrase deux fois, versets 20 et 24. Il va dire que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et là, au travers de ces deux phrases, on voit bien la pensée principale de tout le chapitre 7, hein, qui est eh bien, de rester dans l'état où on est. Hein. Paul ne veut pas imposer sa pensée, ne veut pas imposer son avis, sa volonté, mais il exhorte, pour plusieurs raisons, à rester dans l'état où nous sommes le jour où nous avons été appelés. Alors, il va prendre quelques exemples de la vie qu'il met en parallèle avec son sujet. D'abord, il prend cet exemple de quelqu'un qui accepte Christ alors qu'il est circoncis. Il dit qu'il doit rester circoncis, qu'il reste dans l'état où il était, dans sa condition. Et de même, quelqu'un incirconcis qui se convertit, il dit mais qu'il reste incirconcis, qu'il ne se fasse pas juif, qu'il ne devienne pas circoncis, qu'il reste comme il est. Alors, on peut se demander, mais comment un circoncis pourrait devenir incirconcis, hein? Ça semble bizarre, hein? Et pourtant, eh bien, dans les cultures grecques de l'époque, il y avait ces jeux où, ils faisaient la gymnastique, c'est nu, hein? Il y avait l'idée de faire la gymnastique nue. Alors, c'était aussi pour ne pas tricher, en fait, hein? Là, il n'y avait que la personne, hein? Il n'y avait pas de dopage ou de tenue de, vous savez, comme à la natation pour essayer d'aller plus vite. Là, c'était tout le monde égalité. Et donc, c'est avéré hein, dans des écrits antiques. On voit que certains juifs avaient honte hein, et voulaient essayer de dissimuler leur circoncision. Mais Paul dit, il ne faut pas essayer de changer sa condition, mais plutôt accepter l'état dans lequel nous sommes au moment où nous avons été appelés. Et puis Paul poursuit avec un autre exemple. De même, si quelqu'un se convertit alors qu'il est esclave, eh bien qu'il ne se soucie pas de sa condition d'esclave, qu'il demeure esclave. Mais Paul rajoute, toutefois, si jamais il a l'occasion, hein, si eh bien, le maître le libère, hein, alors eh bien qu'il puisse saisir l'occasion. Sachant que de toute façon, jamais personne n'est totalement libre, puisque en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et de la même manière, en Jésus-Christ, nous sommes tous libres, quelle que soit notre condition, même si nous sommes esclaves. Eh bien, on est libre en Jésus-Christ. Mais toutefois, il exhorte à choisir la liberté si c'est possible. Et ce qui est intéressant dans ces parallèles, c'est que sauf exception, c'est-à-dire l'esclavage, où là, eh bien, on reprendrait sa liberté, ou bien un mariage avec un inconverti qui voudrait rompre l'union, et donc là, eh bien, on retrouve aussi, entre guillemets, sa liberté, nous sommes exhortés principalement à rester dans la situation où nous nous trouvons. Et il a pris ces deux exemples pour le montrer encore une fois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de circonstances qu'on aimerait parfois changer parce qu'on a du mal à accepter notre condition. Mais Dieu nous enseigne, c'est possible d'accepter la situation dans laquelle nous sommes. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ habite en nous. Et c'est lui, finalement, quelle que soit notre situation, qui nous donne un vrai affranchissement, une vraie liberté en lui, quelle que soit notre condition. Qu'on soit circoncis, incirconcis, esclave, libre, marié, séparé et seul, divorcé, célibataire, veuf, veuve, c'est possible en Christ d'accepter notre situation présente. Alors il dit que chacun frère demeure donc devant Dieu dans l'état où il a été lorsqu'il a été appelé. Maintenant, c'est vrai que si on suivait ce conseil de Paul depuis l'origine, depuis le premier siècle, il y aurait eu de moins en moins de naissances et plus de mariages après conversion hein, que des personnes célibataires, forcément. Mais Paul prend bien soin de dire à chaque fois, il dit, mais c'est mon avis, hein, et c'est ce que je pense être le meilleur. Et l'important, c'est quand même ce qu'il dit au verset 17, où il rappelle hein, qu'il faut marcher selon la part que le Seigneur a faite à chacun, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ça l'important, faire ce que Dieu veut. Et on n'est pas tous identiques, on n'est pas tous dans le même moule. Et il y a des circonstances de vie aussi qui sont différentes. Alors pourquoi l'un, eh bien, sa vie est comme ça et l'autre, sa vie est autrement? Dieu est souverain, Dieu est plus sage que nous, il sait ce qu'il fait, il conduit aussi les choses. Et puis aussi, on sait, hein, il fait toutes choses belles en son temps aussi. Hein. Les choses peuvent changer, évoluer. Et on entre maintenant dans cette deuxième partie de notre passage où l'apôtre va montrer les avantages de la vie célibataire. Et le sujet est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par ce sujet, la vie célibataire. Soit nous l'avons été, soit nous le sommes, soit nous le serons demain. C'est pour tous. Et j'aimerais juste, si tu peux projeter... Voilà. Donc là, ça vous montre un petit peu que nous sommes tous concernés. Pourquoi ? Parce que nous commençons tous notre vie célibataire tout en haut. Et puis, parfois, assez jeune, eh bien, on se marie, on vit une vie maritale, et puis, ben, soudain, c'est la séparation, et on se retrouve de nouveau, veuf ou veuve, à vivre une période de célibat. Parfois, c'est vrai, hein, on commence le célibat, on se marie, et puis après... ça dure jusqu'au bout et certains s'éteignent à deux, presque en même temps ou très peu de temps. Hein, et finalement, c'est toute la vie ensemble. D'autres vivent une période de célibat très longue et se marient sur le tard. Hein, ils ont une petite partie mariée. D'autres donc se marient et puis après, eh bien, selon les circonstances, et aujourd'hui, il y a plus... Enfin, il y a beaucoup de circonstances qui font que, ben, on se retrouve célibataire. Hein. Parfois, c'est le veuvage, mais parfois un divorce. Hein. Et parfois, eh bien, un remariage. Et puis, de nouveau, un célibat, c'est possible. Hein. Il y a des vies qui sont assurées. Hein. Ou bien, un célibat, et puis un mariage très court. Je pensais à Anne, femme de Pénuel, hein. Très court, et puis toute sa vie célibataire à servir le Seigneur. C'est aussi possible. Et puis d'autres cas, eh bien, une vie de célibataire durant toute sa vie, c'est aussi possible. Et finalement, on voit que le célibat, ce n'est pas une rare exception dans la vie. Hein, ça arrive parfois à quelqu'un. Non, ça arrive à tout le monde. Nous passons tous par là. Et il est plus important de bien vivre ces périodes de célibat qu'essayer de vouloir fuir à tout prix ces périodes de célibat. Il faut apprendre à bien les vivre parce qu'on le vivra ou on le vit. On peut reprendre notre texte, 1 Corinthiens 7, 25 à 27. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Alors, la première pensée est que, quand Paul va parler du sujet des jeunes filles vierges, eh bien, c'est que pour des jeunes filles, en fait, hein, les vierges. Mais en fait, le mot peut être utilisé au masculin ou au féminin. Donc, quand il dit, eh bien, pour ce qui est des vierges, en fait, il parle de ceux qui n'ont pas eu de relation, en fait, qu'ils soient hommes ou femmes. Vous savez, les vierges dans l'Apocalypse, les juifs hein, qui n'ont pas eu de relation avec des femmes, ben, c'est le même mot. Ce sont des hommes, là. Donc, ça peut être employé pour l'un ou pour l'autre. Et on revient, donc, avec cette pensée principale de ne pas changer de condition. Et Paul va donner donc plusieurs arguments en faveur du célibat. Premièrement, c'est tout d'abord en raison des temps difficiles qui s'approchent. Il regarde devant, il dit, mais vu ce qu'on va vivre, eh bien, il vaut mieux, écoutez-moi, rester célibataire. Alors, Paul ne savait pas quand la fin du monde, le retour de Jésus-Christ allait venir. Et pour lui, eh bien, il était dans l'expectative, il était là dans l'attente, hein, ça va arriver. Il faut savoir que personne ne le sait, même le Fils de l'homme ne le sait pas. Puisqu'il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, a fortiori, l'apôtre Paul ne le savait pas. Et donc, comme il ne savait pas quand, eh bien, et puis il voyait aussi cette oppression, cette persécution de l'Empire romain. Il voyait tous ces mouvements, je ne sais pas, on pourrait dire géopolitiques, hein. Peut-être au travers des empereurs, déjà des figures d'antéchrist. Eh bien, tout ça lui faisait dire, mais ça va arriver, donc il vaut mieux à cause des temps difficiles qui se préparent devant nous. Et il avait raison, puisque après il y a eu énormément de persécutions aussi, hein, dans ces premiers siècles. C'est pour ça aussi que les Thessaloniciens vont écrire à Paul dans l'inquiétude. Si vous vous souvenez, première épître aux Thessaloniciens, ils se demandent, mais alors ça y est, et Paul les rassure, mais sans exclure que eh bien, ça ne va pas tarder, le retour du Seigneur est proche. Et donc c'est un conseil judicieux hein, que l'on peut toujours conserver dans notre cœur. Il dit, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Et cette parole, elle vient à contre-courant un peu des paroles qui peuvent sortir de notre bouche. Parce que parfois, nous disons, mais le bonheur, c'est d'être marié. Le bonheur, c'est ça. Et on voit une personne qui souffre de solitude et on lui dit, mais je suis sûr que le Seigneur va pourvoir. Je suis sûr. Est-ce qu'on sait vraiment? On n'en sait rien. Hein? On n'en sait rien. On ne devrait pas dire ça. Peut-être même parfois on donne des conseils, peut-être, hein, pour essayer de trouver l'âme sœur. Jamais on dit, n'es-tu pas lié à une femme ? Ben, ne cherche pas une femme. Hein ? On va se garder de dire ça. Mais il y a des grands avantages au célibat. Il y en a dans le mariage, hein. Il y a des avantages au mariage, mais il y a aussi des avantages dans le célibat. De la même manière, il y a des difficultés donc dans le mariage et il y en a dans le célibat, les deux. Et c'est jamais tout blanc, tout noir, ou tout noir, tout blanc, non, c'est plutôt gris pour les deux. Et on connaît cette pensée, ah, l'herbe du pré d'à côté est toujours plus verte. Et on a toujours le sentiment, ben, il est plus heureux, lui. Hein. Et c'est vrai, dans les deux cas, hein, parfois, il faut se le dire. Simplement, c'est pas qu'elle est meilleure, l'herbe d'à côté, c'est qu'elle est différente. C'est pas la même herbe. Alors, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est mieux d'être célibataire, dit Paul. Pour nous, en France, on est en sécurité. Là, regardez, on célèbre notre culte joyeusement, on a pu se garer dans la rue, on peut chanter à pleine voix, faire profiter les voisins, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, dans certains pays, mais c'est terrible, hein, la persécution. Imaginez, vous avez une femme, des enfants, et vous vivez la persécution. Vous pouvez avoir le cœur déchiré. Combien il y a de maris qui sont en prison, qui souffrent de ne pas voir leurs enfants grandir, de ne plus voir sa femme. Et de l'autre côté, la famille qui souffre de solitude. Ils sont chrétiens, ils aiment le Seigneur. Et il y a une séparation là pendant 10, 20 ans, sans savoir s'ils vont se revoir. Dans cette situation, mais il vaut mieux être seul. C'est bien mieux. Au moins, si on souffre, ben on souffre tout seul. Et puis, on ne souffre pas eh bien, d'être séparé de sa famille. Donc, on comprend l'argument de Paul. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Et Paul est plein de clairvoyance lorsqu'il dit ces personnes auront des tribulations dans la chair, c'est-à-dire dans leur corps. Pourquoi vouloir entrer dans une situation qui va devenir une situation de souffrance pour tout le monde, pour la famille, pour les enfants, ou pour les enfants à naître? Alors, eh bien, il vaut mieux rester célibataire. C'est une très bonne raison de rester célibataire. Maintenant, on peut voir une deuxième raison derrière l'idée des tribulations dans la chair. Quand on regarde l'institution du mariage donnée par Dieu, c'est merveilleux. C'est quelque chose de beau, c'est magnifique. Cette institution aussi, elle apparaît dans la Genèse avant la chute. C'est merveilleux. Imaginez-vous, vous vous mariez à un mari parfait. Plein d'attention, tout le temps, aux petits soins, plein de douceur, de intelligent, vif, courageux, parfait. C'est merveilleux. Ou bien vous mariez à une Ève magnifique, pleine de douceur et serviable et aimante, douce. Mais ce n'est pas si facile lorsque on entre dans le mariage parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des imperfections. Le serpent est passé par là et depuis, eh bien, ce n'est plus comme à l'origine. Et le péché fait qu'il y a des souffrances dans le mariage. Ce n'est pas facile. Tout n'est pas parfait et linéaire. Et il y a des souffrances d'abord dans le fait qu'il y a des conflits. On souhaite le moins possible, hein, on en souhaite le moins possible, mais deux pécheurs ensemble, eh bien, voilà, rien à faire à un moment. Il y a des visions différentes, des pensées différentes, et la chose se multiplie par 10 si en plus l'autre n'est pas au Seigneur ou ne marche pas avec le Seigneur. Ah bien, on va aller au culte ce matin. Ah non, il fait beau aujourd'hui, on va aller se promener. Pas facile, hein, quand il y a deux visions différentes. Et il y a des conflits, quoi qu'il arrive, même dans les couples chrétiens. Ça peut paraître très beau à l'extérieur, mais après, derrière, à la maison, voilà, il y a des frottements, ça grince, hein, tout n'est pas forcément huilé. Ça doit l'être par le Saint-Esprit, mais ça ne l'est pas forcément. Il y a des souffrances aussi à cause de l'incompréhension. Quand on entre dans le mariage, on peut s'imaginer que l'autre est un peu comme nous, qu'il pense un peu comme nous. Mais vous savez que l'homme et la femme sont très différents. On le sait intellectuellement, on l'a entendu. Mais c'est une autre chose que de le vivre et d'être avec, ensemble, et de vivre des choses ensemble. Parce que là, on en prend toute la mesure. L'homme et la femme sont vraiment différents. On ne pense pas de la même manière. Et on ne peut pas blâmer l'autre. Dieu nous a fait ainsi, on est différents. Alors, c'est une belle chose quand on commence à comprendre cela, qu'on l'accepte et qu'on arrive à se complémenter, hein, pour servir ensemble. Là, c'est bien, mais ça ne se fait pas naturellement, ça prend du temps et il y a des souffrances et des incompréhensions, il faut de la patience. Dans le mariage, il y a aussi les souffrances des surprises. Lorsqu'on se prépare pour le mariage, eh bien, on entrevoit la chose comme merveilleuse. Et puis après, on entre dedans et là, il y a des surprises. On se dit, mince, c'est pas du tout comme je pensais ou pas exactement comme je pensais. Il faut savoir que dans le mariage, ça fait ressortir tous nos défauts, toutes nos faiblesses. Personne ne nous connaît mieux, à part Dieu, que notre conjoint, c'est évident. Et on peut par exemple savoir de quelqu'un, bon, il a quelque chose dans sa vie, c'est pas sanctifié. Je le sais, je l'ai vu, mais il vit chez lui, hein. Ça regarde Dieu. Et c'est une autre chose que de vivre avec quelqu'un et se dire, mince, ça c'est pas sanctifié. Oui, mais c'est tous les jours, c'est au quotidien, il faut vivre avec. Ben là, ce n'est pas pareil. Là, ce n'est pas facile. Il faut le vivre. Hein. Et le mariage, c'est un révélateur. Ça révèle tout. On ne peut plus être caché. Et même si parfois les pièces semblent s'imbriquer, hein, on se dit, ben, ça a l'air de bien coller là. Il y a toujours des angles, vous savez, des bavures qui font que ce n'est pas parfait, quoi, que ça ne s'imbrique pas d'une manière parfaite. Alors, le but du Seigneur, c'est justement de limer, hein, ces bavures, de permettre, mais ça prend du temps. Ça prend parfois énormément de temps. Et parfois, il faut vivre des années avec une imperfection, des imperfections de l'autre. Il y a les siennes, mais en plus, il y a celles de l'autre qui font que, ben voilà, il faut apprendre à s'aimer, se pardonner, continuer. Alors, lorsqu'il y a un vrai désir de servir le Seigneur, de plaire ensemble au Seigneur, l'aventure du mariage est merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse, mais ce n'est pas toujours le cas et parfois, eh bien, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc, le célibataire a un avantage en ce qu'il n'a pas besoin de vivre, il ne vit pas cette tribulation-là. Troisièmement, versets 29 à 31. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et on voit ici que le célibat accorde une grande liberté d'action du fait du peu d'engagement et de responsabilité. Le célibataire peut se concentrer sur les choses d'en haut, tandis que la personne qui est mariée, elle doit se préoccuper des choses d'en bas. Nécessairement, à cause de sa vie de famille, à cause de son couple, elle est obligée au moins d'avoir une attention pour les choses d'en bas. Par exemple, une famille, ça implique nécessairement d'envisager au fur et à mesure qu'elle s'étend la famille, qu'elle se multiplie, il faut un logement plus grand, il faut une voiture plus grande, et puis il faut les assurances, puis il faut envisager l'éducation des enfants, et puis il faut prendre soin d'eux dans tous les domaines aussi. Il y a des moments récréatifs, il faut concentrer, il faut passer du temps à sa famille. Et on voit par cela que la personne mariée, elle est nécessairement liée aux choses de la terre et elle n'a pas d'autre choix. Et le défi, c'est d'avoir une femme, d'avoir des enfants ou d'avoir un mari et d'avoir des enfants, d'éprouver des sentiments, d'être liée aux choses de ce monde parce qu'il faut nécessairement prendre soin de sa famille tout en gardant dans son cœur toute cette attention pour les choses d'en haut et tout en voulant que, ensemble, on reste avec les yeux fixés sur les choses d'en haut. Et ça, c'est un vrai défi. Quand les enfants grandissent et que le monde leur dit « Mais la vie, c'est ça, c'est profiter de ce monde », c'est pas facile de leur dire « Mais non, la vie, c'est en haut. La vie, c'est en haut. » D'accord, on vit, mais il faut se concentrer sur le Seigneur et s'attacher au Seigneur. Alors que la difficulté est ôtée si on est seul. Le célibat nous rend libre des liens extérieurs et des pressions familiales. Je dirais, le célibataire est libre comme l'air. C'est une réalité. Au début du verset 32, Paul dit « Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Et il dit « Mais le célibat libère de beaucoup d'inquiétudes. » Hier, Arnaud me dit « Je n'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai sauté le repas et tout ça. » Moi, je me vois mal dire à mes enfants « On va sauter un repas, les enfants. On a des choses à faire. » La maison explose. Kimberly, des fois, aimerait bien sauter un repas. Parce qu'elle en a jusque-là de faire des repas tous les jours. Mais bon, c'est ça. Le mariage, c'est ça aussi. C'est qu'on est lié aux choses de la terre et il faut vivre dans les choses de la terre parce qu'on l'a choisi aussi, d'une certaine manière. Versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Et quatrièmement, le mariage vient placer dans notre cœur une personne, voire des personnes avec les enfants, autre que le Seigneur seul. On intègre nécessairement la famille dans son cœur. Et donc, quelqu'un de marié, c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, entre guillemets, je dirais, divisé. Il est divisé. Divisé entre un désir de servir pleinement le Seigneur et puis aussi ce besoin et cette joie aussi de servir sa famille, son conjoint. Et ce n'est pas question de négliger sa famille au profit du Seigneur. Si on est marié, Dieu veut qu'on prenne soin de notre famille. Et à partir du moment où on est marié, maintenant, le service du Seigneur passe par le soin de sa famille. C'est là où on sert aussi le Seigneur, en s'occupant de sa famille. Et Dieu veut, bien sûr, qu'on aime notre épouse, notre mari, c'est sa volonté pour nous. Mais nécessairement, quelqu'un de marié est divisé quelque part dans son cœur. Il ne peut pas être totalement entier au Seigneur et ne faire que pour le Seigneur. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, le meilleur, c'est servir ensemble le Seigneur et faire les choses de concert. Voilà, paf, tous les deux. Mais tout ne marche pas forcément toujours comme ça, malheureusement. Tout n'est pas toujours aussi simple. Et parfois, on pense que servir le Seigneur, c'est faire quelque chose, mais à cause de l'autre, à cause de notre conjoint, qui lui ne le voit pas du même œil, eh bien, on est obligé de réviser notre jugement. Et puis, ben, non, on va faire autre chose. Et de faire en fonction de notre époux ou en fonction de notre épouse. Et Dieu veut qu'on prenne en compte la vie, la pensée de l'autre. Parce qu'on est marié maintenant. On n'est plus seul. Quand j'étais seul, je faisais ce que je voulais. J'ai envie d'aller par là, je vais par là. Mais maintenant que je suis marié, ce n'est pas pareil. Je dois demander. Et bien de la même manière pour chacun. Alors que dans le célibat, c'est la liberté. C'est la liberté, vraiment. Une personne célibataire peut être totalement consacré au Seigneur. Et je dirais qu'il y a un potentiel de sacrifice et de service extraordinaire dans le célibat. Ça, c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. Attention, ça ne veut pas dire que tous les célibataires utilisent ce potentiel. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et malheureusement, comme on peut gâcher un mariage, on peut gâcher un célibat. Parce qu'on va le gaspiller à rien, quoi. À de la futilité, à des choses qui n'en valent pas la peine. On va gaspiller son argent. On va, voilà, et vivre. Et finalement, gaspiller son temps et son célibat. Mais celui qui veut servir le Seigneur, il a un potentiel extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il n'a aucune contrainte, aucun lien, aucun impératif, aucune responsabilité. S'il est en train de parler avec quelqu'un, il peut parler 5 heures. La personne mariée, « Ah, ben j'ai mes enfants là, excuse-moi. » Hop, terminé. Donc, il y a quand même des limites, alors que dans le célibat, il n'y a pas de limite. La limite, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui conduit, qui ordonne, c'est sa volonté. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la prière, dans la lecture, dans l'étude, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans le service, il n'y a pas de limite pour le service du Seigneur. On peut vraiment être libre. Et puis, on dispose de tout son salaire qu'on peut consacrer aux choses d'en haut, consacrer au Seigneur. On peut faire ce qu'on veut, en fait, même de son argent. Je ne regrette pas de m'être marié. Hein? Rassurez-vous, hein? Je veux rassurer ma femme aussi. Je ne regrette pas de m'être marié. Je remercie beaucoup le Seigneur pour mon épouse. Mais ayant connu le célibat en tant que chrétien pendant 10 années, eh bien, je mesure aujourd'hui le potentiel qu'il y a de rester célibataire. Il y a un réel potentiel. Et c'est ce que Paul veut nous faire remarquer dans ce passage. Il veut souligner ça, pas dire, mais le célibat, c'est une tare, c'est rien du tout, c'est un défaut, il faut vraiment que vous sortiez du célibat à tout prix, c'est un boulet, c'est un malheur. Non, Dieu dit non, ne regardez pas ça comme un malheur, c'est pas un malheur. Il y a de grandes bénédictions derrière le célibat. Et c'est une grâce, un temps que Dieu nous donne, et on a vu, parfois c'est temporaire, hein. Un temps que Dieu nous donne où nous pouvons le servir efficacement, librement, généreusement. Allons-y. Consécration totale. Et alors, ce qui amène Paul à continuer à écrire, cette fois, un conseil à l'intention des pères. Donc, la suite de notre passage. Cinquièmement, on va lire versets 36 à 38. Verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors je sais que ce passage est traduit différemment selon les versions. Peut-être que vous avez une version différente de celle-là, et vous êtes surpris parce que vous voyez que c'est traduit différemment et ça part dans un autre sens, carrément un autre sens. On peut donc retrouver un petit peu un autre sens, je vous l'interprète un petit peu, je ne vous donne pas une version, mais comme si Paul dit, vous regardez comme déshonorant de rester vierge, célibataire, après avoir passé l'âge nubile. Vous voulez vous marier, vous ne péchez pas. Mais si vous prenez la libre décision de rester vous-même célibataire, ben vous faites mieux. Donc, certaines versions vont plutôt dans ce sens-là. Hein? Et c'est possible. Et on peut comprendre les traducteurs qui ont choisi ce parti-là, parce que c'est un passage qui est difficile à traduire. Et c'est dû notamment à l'aspect que le mot vierge peut être masculin, féminin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai passé beaucoup de temps dessus, à lire beaucoup de choses. Et finalement, après coup, je me dis que je préfère quand même notre version. Parce que même la version d'Arby, notamment, que j'aime beaucoup, hein, bah, ce n'est pas sans difficulté. Il y a quand même un choix. Et donc, je trouve qu'il y a une logique et quelque chose de compréhensible dans le passage tel que nous venons de le lire et de le comprendre. Il faut savoir que dans la société romaine, grecque ou juive de l'époque, comme c'est toujours le cas dans de nombreuses cultures, partout, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, ou en Amérique du Sud, le père a une grande importance dans le choix de l'époux. Donc souvent, il intervient dans le mariage. En tout cas, il a vraiment son avis à donner. Et même en France, jusqu'au XIXe siècle, le jeune homme allait demander la main de la fille au père. Je ne pense pas que ça se fait encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça se faisait beaucoup autrefois. Et donc, le père avait quand même son mot à dire. Entre parenthèses, à mon sens, je pense que c'est bien. On est content quand une jeune femme, une jeune fille vient voir son père et puis lui dire « Papa, qu'est-ce que t'en penses ?» Parce que parfois, on est déjà tellement sur des nuages qu'on voit plus clair. Et les parents ont les pieds sur terre et disent « Je suis pas sûr là, ma fille. » Donc, je pense quand même que c'est une bonne chose. Mais il n'y a rien de choquant dans l'idée qu'un père se préoccupe du mariage de sa fille. Mais Paul oriente les pères vers une autre direction ici. Celle de dire, père, si vous voulez garder votre fille vierge, vous faites bien. Alors, au départ, ça nous choque. Parce qu'on se dit, mais attends, est-ce que le père obligerait sa fille à rester vierge jusqu'à la fin? Mais Paul dit, il dit, celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte. Et ce mot ici, sans contrainte, c'est important. Il dit en fait, il ne faut pas qu'il y ait une contrainte, il ne faut pas que ce soit forcé, il ne faut pas que la chose soit forcée. Si c'est sans contrainte, alors vous faites bien. Paul donne un avis de ce qui lui semble le meilleur. Et il est bien clair que si un père se dit, ben, je vais consacrer ma fille, plutôt envisager pour elle qu'elle serve le Seigneur, entièrement pour le Seigneur, et que la fille dise, papa, papa, tu as vu ce jeune homme-là? S'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, dis oui. Alors là, il y a de la contrainte. Ça ne peut pas être supportable. Et je ne pense pas que Dieu veuille obliger quelqu'un, puisque tout le texte dit, si quelqu'un veut se marier, mais qu'il se marie. La pensée de Paul, c'est ça, tout au long du texte. Donc, il n'est pas question ici de forcer quelqu'un au célibat. Je ne pense pas. Mais si le père envisage cela pour sa fille et que sa fille, eh bien, ne pense pas à se marier, n'en a pas forcément envie, ben alors ce n'est pas la peine de la pousser forcément dans cette direction. Le but, c'est de ne pas forcer sa fille au célibat. Le but, c'est d'envisager ça comme une bonne chose. Et ça, ça nous prend à contre-pied. Parce que pour nous, ce qui est naturel, c'est le mariage. Et le mariage pour tous. Et quand on pense à nos enfants, on pense à tous les mariés. On n'envisage même pas une autre chose. C'est pour ça que quand ils sont petits, on dira, eh bien, quand tu seras marié, hein, ben tu... Ou bien, quand les jeunes gens sont adolescents, alors, eh bien, on demande, il n'a pas déjà quelqu'un en vue ou bien, quand on voit une jeune femme qui n'est pas mariée, alors, quel dommage. Si belle jeune femme, elle n'est pas encore mariée. Quel dommage, hein. Quel gâchis. Autrement dit, on dit ça, mais on ne le prononce peut-être pas. Et donc, c'est vrai que d'une manière automatique, on pousse vers le mariage. Mais Dieu dit, verset 38, « Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. » Et ce n'est pas simplement Paul qui le dit, c'est Dieu qui dit ici par sa parole, c'est mieux. Il y a quelque chose de mieux. Parce qu'il y a des avantages au célibat. Parce que ce n'est pas du tout un malheur. Et quand on a le don du célibat, quand on a cette capacité de pouvoir rester seul, mais il y a une grande bénédiction à servir le Seigneur. Vraiment. Quand on a compris que servir le Seigneur, c'est le meilleur, alors eh bien, le célibat présente vraiment un avantage. C'est une position avantageuse. Si on a le don. Et ça nous enseigne à nous de nous garder, de vouloir marier quelqu'un à tout prix. On ne sait pas qu'on se garde. Hein. C'est peut-être pas le meilleur pour la personne. Alors, eh bien, laissons la personne décider d'elle-même, qu'elle soit seule, qu'elle prenne sa décision. On peut rappeler que le seul homme parfait ayant vécu sur la terre a choisi de rester célibataire. Jésus-Christ. C'était lui qui était le plus sage, c'était lui qui était omniscient et il a décidé de rester seul sur la terre. Comment nous, on pourrait dire, mais je sais ce qui est sage pour toi, c'est le mariage. On n'en sait rien. Mais si quelqu'un se marie, il n'a pas péché. Dieu ne force pas. Hein. Si quelqu'un veut se marier, il peut se marier. Sa vie va être complètement différente, mais il en est libre, qu'il fasse ce qu'il veut. Et le mariage n'est pas non plus quelque chose de mal et il ne présente pas que des désavantages. Alors on pourrait, ça serait le sujet d'un autre message finalement, de traiter les avantages et les bénédictions et la richesse qu'il y a dans le mariage. Ce n'est pas le but ce matin. Donc, il vaut mieux se marier que de brûler. Si vraiment on brûle à l'intérieur, eh bien, on n'a pas le don. Eh bien, qu'on se marie. Mais si on a ce don, alors, eh bien, c'est un très bon choix. Sixièmement, versets 39 à 40. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Et la dernière chose qu'il enseigne, qu'il est important de noter, hein, et qui porte en faveur du célibat, c'est que le mariage est permanent. Hein, ça dure. Et on l'a vu la dernière fois. Ça peut être merveilleux, comme ça peut être moins merveilleux. Mais une fois marié, on est marié. Et ça dure dans le temps. Et ça doit nous faire réfléchir. Et parfois, comme Paul le dit, on peut être plus heureux et plus heureuse en restant seul. Ça arrive, malheureusement. Et la vie fait parfois aussi que quelqu'un qui aurait pu rester célibataire, qui en avait le don, mais qui, par la pression extérieure, se marie. Et puis, voilà, ça ne se passe pas forcément comme c'était prévu. Et parfois, c'est même tragique. C'est un désastre. Alors que ben, le bonheur aurait été de vivre sa vie célibataire. Mais il y a aussi cette pensée. Être célibataire, c'est pas bien. Donc forcément, il y a eu cette pression. Hein. Et j'aimerais conclure en disant que le mariage est une belle chose. J'espère que je vais marier des gens un jour, hein, quand même. C'est ce que nous vivrons en tant que corps de Christ. Nous sommes l'épouse, hein, et on va être unis à notre époux parfait et pour l'éternité. Et il y a une chose mystérieuse, merveilleuse, qui est derrière le mariage. Donc, je l'ai dit, le mariage pourrait être un autre message. Mais le célibat n'est pas un état inférieur, dégradant ou humiliant pour l'homme ou pour la jeune femme. Parfois, une église fait une réunion pour les célibataires. Et les célibataires ne veulent vraiment pas en faire partie. Hein, parce que oh, je refuse de faire partie de ce genre de truc. Moi j'envisage autre chose. Hein. Mais il faut accepter aussi sa situation présente et la voir telle que Dieu la voit. Il y a quelque chose de bon dans cette partie de vie qu'on est en train de vivre. Dieu ne veut pas qu'on ait cette pensée. On peut dire que, pour terminer, le célibat est le seul don que Dieu nous laisse libre d'employer si on veut ou pas. Puisqu'il dit, si quelqu'un veut, il peut se marier. Mais s'il a le don, il vaut mieux pour lui. Ça sera beaucoup plus avantageux. Mais on est libre. Hein? Qu'on puisse faire ce que l'on veut dans le Seigneur pour le servir et le glorifier au mieux. On va avoir un moment de prière.